Espresso.
3, 2, 1.
Le meilleur conseiller matrimonial vient d'arriver en studio,
hey!
Denis Gravel, précisément midi. Salut mon ami.
Aïe aïe.
Ben oui, on présente comme ça.
Oui, c'est...
Dans la vie, il y a des menteurs et des menteurs.
On appelle ça présenter une fraude.
J'ai une idée.
Oui, est-ce que c'est toi le fraudeur ou c'est lui, finalement, non, dans l'affirmation?
Je pense à être meilleur pour conseiller les autres que me conseiller moi-même, en général, là, mais je pense qu'on est plusieurs de même, par exemple.
Ouais. On a deux célibataires à la station.
Il en reste rien que deux.
Dans l'équipe de staff, de mémoire. Deux que c'est des causes perdues, OK?
Mm-hmm. Puis, pardon?
Ça, il ne faut pas dire ça. Hein?
Mais c'est juste parce que moi, c'est par choix à Max, c'est okay. Par désespoir.
Voilà, OK. Ben bref, Pascal et Max sont célibataires.
Oui.
Puis j'ai décidé pour le 14 février de faire quelque chose de cool.
Les DT,
t'es malade ou quoi?
Quoi?
Qui pourrait s'appeler le boulevard de l'amour. On fait revivre genre coup de foot.
Ouais!
Avec Pascal et Max.
Ensemble ou chacun de leur bord?
Chacun de leur bord.
OK.
C'est pas mieux.
Fait que,
c'est un peu mieux, mais c'est non.
Trois candidats, trois candidates. Pis...
C'est parce que j'ai écouté un film pendant le temps des fêtes sur Netflix,
oui.
Là, de Dating Game. Là.
Mm-hmm. Attends, sur un tueur en série.
Oui, exact.
Enfin, quelqu'un qui se soucie de ma santé mentale et physique.
J'arrête ma réflexion, là.
Merci, Denis.
T'as-tu le goût de juste le faire avec Maxime, mettons?
Non, on va le faire avec les deux. On va faire ça le 14 février à 12h30.
Dan, tu sais comment on est bien célibataires, tu sais, dans nos affaires, triper avec nos amis.
Pour vrai, là, j'ai été célibataire longtemps. À plusieurs reprises pendant qu'on faisait de la radio, puis à chaque fois qu'on me proposait un scénario de même, là, je me liquéfiais. Pour moi, c'était le cauchemar. Tu sais, de dire « Hey, on va utiliser les ondes pour te trouver une petite copine. » Non.
Moi, j'aime même pas ça hors d'onde, imagine. Tu sais, je suis bien seule. C'est vraiment un moment de ma vie où je suis, puis je l'ai pas été tant que ça dans la vie. Je suis jeune, puis j'ai eu un couple de 10 ans, puis après ça, un autre de 1 an et demi.
Écoute,
entre-temps, j'ai eu un 8 mois célibataire, puis là, 1 an et quelques. T'sais.
J'avais tellement peur qu'il fasse ça, un coup de foudre avec du monde en onde, que j'ai commencé à dater toutes les filles.
C'était pour ça, Denis? C'était vraiment pour ça?
Ils ont tous dit non.
Mais moi, il faut que je me trouve quelqu'un de 14, parce que son idée, il a l'air sérieux.
Ouais.
J'arrête pas de dire qu'il est sauté, qu'il saute et braque, puis il n'y a rien à faire.
Les candidats se sont déjà présentés.
Mais je pense que c'est des farces, ça, là.
Non, non, il y a des gens qui sont très sérieux. On fait ça le 14 février, puis à la toute fin, l'homme ou la femme qui aurait été choisi, on est en 2025, mm-hmm. Comment présumer de qui sera choisi à la fin?
Oui, mais moi, je suis quand même hétérosexuel, avoir... Yannick. Tu peux pas choisir pour moi si je deviens bisexuel du jour au lendemain.
Ça, c'est tes affaires. Mais il va y avoir à la fin le choix du candidat qui va avoir été choisi.
Oui.
Il va devoir choisir entre 100 $ à la fromagerie Victoria ou 100 $ il part avec Pascal Cévé.
C'est du cave. Je vais me faire tasser pour une grosse galvaude.
Ça fait du... Choisis.
Sinon, au moins, il met un extra fromage, s'il te plaît, là, c'est ton choix.
Choisis ta galvaude.
Ben oui. Ben non, mais là.
Fais juste t'assurer, parce que ça peut devenir difficile à organiser, fais juste t'assurer que la fin de semaine des dates, les trois candidats ont le droit de sortir de prison cette fin de semaine-là, par exemple. Fais juste, tu sais, pour être sûr.
Comme critère, on exclut les tueurs en série.
Oui.
Oui. Parce qu'on le sait toujours d'avance.
Oui. Fait que si vous êtes tueur en série, idéalement, ne pas participer au concours. Quoi qu'on veut pas faire de discrimination nécessairement, là.
Tes tests maths, tu deviens épouvantable.
Quand c'est pas mon
problème. Contre une galvaude,
quand c'est pas mon problème, c'est veut dire.
Jenny qui nous écrit, dit, c'est cool parce que je viens d'apprendre que je peux y aller autant pour Pascal que pour Max.
Oh yeah!
Oui. C'est oui. C'est ça, je veux pas casser le parti de personne, mais vraiment, j'aime les hommes. Mm.
C'est ton problème.
J'aimerais vraiment, là...
Manque d'ouverture, moi, je dénonce ça beaucoup, là.
T'as pris être content?
Ouais. Ouais. Fait que, bref, on a quelque chose. À savoir si les frères Leclerc vont embarquer là-dedans.
Pas sûr.
J'ai hâte qu'ils me sauvent.
Va falloir que je sois drôle, comme d'habitude.
Mais moi, je pense que le 14 février, j'ai une grosse diarrhée. J'en ai jamais eu, là, mais une grosse gastro là, fulgurante.
Alors, faut
là,
pas tu choques. Faut pas tu choques. Faut faire que tu fasses ça pour nos auditeurs.
C'est la diarrhée de l'amour qu'on appelle.
Denis?
Oui?
Qui joue à la roulette russe?
Écoute, j'ai vu l'histoire qui est incroyable.
On parle d'un jeune homme, là.
Ouais. Dans trentaine.
23 ans.
C'est juste 23?
Ouais. Un jeune de 23 ans,
ouais.
On le voit ici en compagnie de son poisson, ou le poisson en compagnie de son défunt.
Mm-hmm.
Mais il a décidé, lui, dans une voiture avec un de ses chums, qui jouait à la roulette russe. Son chum, qui était dans le véhicule, a tellement paniqué parce que l'arme, veut pas, elle a bien fonctionné, puis la balle est arrivée dans la tête de l'individu, a sorti du véhicule. Ça s'est passé directement devant le poste de police de la Sûreté du Québec dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi la roulette russe, by the way. Là. C'est un vrai gun que tu gardes une balle dedans, tu tournes le barillet random et tu as une chance sur 6 de te prendre la balle en pleine tempe. Ouais. On a vu ça dans Squid Game 2 pendant le temps des fêtes. Mais il y a des gens qui font le lien là, dans les médias.
C'est arrivé le lendemain.
Ouais.
Le Squid Game arrive, puis dans la série Squid Game 2, il y a deux fois le jeu de la roulette russe. Mm. Puis là, ben, est-ce que le jeune aurait voulu refaire le film? Ça n'a pas de bon sens.
On peut se poser la question, parce que je cherche pourquoi. Tu sais, moi, je me suis demandé, y avait-tu de la drogue impliquée là-dedans? Y avait-tu un genre, je sais pas moi, s'haïssais-tu? C'était-tu le crime organisé? Puis là, plus tu lis, plus tu te rends compte que non, ça semblait vraiment être deux amis. Tu l'as vu dans American Pie aussi, mais c'était beaucoup moins dangereux. Là.
Ah, puis on l'a vu dans The Deer Hunter à l'époque. Je veux dire, c'est pas la première fois ouais. qu'on voit... le jeu de la roulette russe à la télévision ou au cinéma. Mais dans le cas de Squid Game 2, moi, je les ai vus jouer à roulette russe. Je peux te garantir que ça ne m'a pas donné le goût d'essayer.
Non. Ben non. Ce qu'on dit, ouais. c'est que quand on retrace les derniers instants de la vie de l'individu, là, c'est qu'il aurait été sur la banquette arrière du véhicule, il aurait retiré 5 balles du barillet mm-hmm. d'un revolver avant d'en remettre 4. La roulette russe, de mémoire, c'était une balle qui était dans le barillet.
OK, ouais. il l'a fait à 4 balles. Ouais. OK, puis dans Squid Game 2, c'est ça qu'ils font. Là. Ils changent les probabilités jusqu'à ce que ça arrive. Là.
OK, ouais. Ouais. Lui, il a réussi.
Les commentaires des amis, de la famille me font vraiment frissonner parce que, premièrement, c'est un gars qui est majeur. Là. Mm-hmm. On s'entend qu'il est jeune, 23, mais normalement, t'as un peu de conscience, t'as un peu de jugement. Il avait pas l'air malheureux dans sa vie. Puis tout le monde disait « Hey! » Mon frère était intelligent. Il n'aurait pas joué à roulette russe avec 4 balles. Je comprends pas. Avec 4 balles ou peu importe, là, moi, ça, j'aurais ajouté. Il n'aurait pas joué à roulette russe, point.
Ben,
mais...
ça reste une tentative de suicide. Là, je veux dire, c'est difficile de voir ça autrement. Là. À partir du moment où tu joues avec un revolver armé, à côté sa tempe, le nombre de balles importe peu. Je veux dire, c'est un suicide. On s'entend.
Puis négligence criminelle, peut-être, pour l'autre qui jouait avec... Tu sais, c'est quoi? Je cherche beaucoup... Comment est-ce que tu peux tellement triper ces sensations fortes, dangereuses ou encore... Tu sais, on se pose la question
ça file
des fois...
pas, puis il l'a pas dit à personne. Puis ça, ben, je veux dire, c'est le fléau de notre société actuelle. Les gens qui souffrent le plus, souvent, c'est ceux que ça paraît pas. Tu sais, combien de fois quelqu'un va s'enlever la vie d'une façon ou d'une autre, puis tout le monde dans son entourage va dire, mais pourtant... Il avait de l'air de bien aller. Il avait de l'air d'une bonne passe. Tu sais, c'est Chester Bennington de Linkin Park. On en a parlé il n'y a pas si longtemps avec les filles dans le retour. Tout le monde autour de Chester Bennington disait « Ouais, il y a un bout, ça allait mal, mais ce bout-là, ça avait de l'air de bien aller.
Ouais, » Puis les dernières images de lui, d'ailleurs, il est souriant.
Ben
il a l'air
oui.
de super bien aller.
Sauf
puis quelques jours plus tard.
Ça fait mal.
Dans les études psychologiques, là, une personne qui va passer à l'acte, là, concrètement, va toujours mieux dans les derniers jours. Ça, c'est scientifiquement prouvé là, dans les études. Là. C'est particulier, mais ouais. c'est comme pour ne pas inquiéter son monde puis pas se faire dire « Fais pas ça. » Mais là, on s'entend, là, si vous avez besoin d'aide en passant à un 866 appel, là, c'est super important. Puis... Mais moi, ce paragraphe-là dans le texte, puis ce qui est amené par, c'est le criminaliste là, qui parle du fait de peut-être un suicide où j'ai de la misère.
Pourquoi?
J'essaie de me mettre en tête que ce serait un suicide, comme on l'évoque comme possibilité. Puis je sais pas pourquoi ma tête se rend pas là. Parce que je me dis, tu sais, une personne qui est super au désespoir et autres, d'avoir quelqu'un qui l'assiste là-dedans ou demander à quelqu'un, est-ce que c'est pour camoufler peut-être d'avoir joué à roulette russe puis qu'on se pose des questions qu'on se pose aujourd'hui puis que quelqu'un comme moi doute que ce soit ça? Puis que peut-être avec les assurances, ouais. on soit pas capable de déterminer que c'est un suicide officiel. Je le sais
Écoute,
pas.
Moi, c'est pour ça que j'en parle. Quelqu'un me dit, Yann, rendu là, c'est de la sélection naturelle. Mais moi, je crois que l'histoire qu'on nous raconte dans le Journal de Québec d'aujourd'hui concernant ce jeune homme-là qui aurait joué avec un autre de ses amis à la roulette russe, il aurait retiré 5 balles pour ensuite en remettre 4. Moi, je crois que c'est pas l'histoire qui s'est passée réellement.
OK.
Mais j'étais pas dans le char. C'est pas moi qui tenais le fanal à ce moment-là.
Ouais.
Parce que tu sais, tu joues à la roulette russe, c'est cave. Avec une balle, tu sais, t'as 80 % des chances de survie versus 20 % de mourir.
Là, ouais.
là, tu mets 4 balles. Ça veut dire que t'as 20 % des chances de survie versus 80 % de mourir.
Peut-être préciser que dans Squid Game 2, les gens qui jouent n'ont pas le choix de jouer
ouais.
aussi. Là.
C'est
peut-être
aussi
amener cette nuance.
Une émission, il commence à avoir des rumeurs comme quoi ça aurait déjà existé. Bah, c'est parti en flambée, ça, sur les réseaux. Mais, tu sais, la personne aussi qui a procédé à l'acte avec le défunt, là. Elle savait probablement qu'elle allait avoir des accusations criminelles, qu'elle allait suivre. T'sais, négligence criminelle, ça peut, ça y part au bout du nez.
Elle
là.
Est passible, effectivement, de poursuite.
Ça, c'est pour ça que j'ai de la misère avec le suicide. Je veux dire, il y a quelqu'un impliqué là-dedans. Tu veux, si tu veux t'enlever la vie, tu veux pas nécessairement
c'est pas
que
comme,
l'autre personne...
C'est pas comme faire un sport extrême. Non. C'est pas comme faire du parachute. Il y a un risque, évidemment. Il y a des gens qui vont dire « Tabarnouche, faut pas aimer la vie pour faire des sports extrêmes. » C'est pas aller chercher une dose d'adrénaline. Là. Je veux dire, t'as un gun sur la tempe puis il est chargé. C'est un suicide.
Okay. Mais toi, mais c'est ça. Je sais pas c'est quoi ta théorie là-dessus. Moi, j'ai l'impression que l'histoire qu'on nous raconte n'est pas la bonne.
Ça se peut. C'est très possible, Yann.
C'est une impression que j'ai. Puis quelqu'un qui veut se suicider, il se suicidera pas avec un de ses amis.
Mais c'est pour ça
que
moi, j'ai
de
la
regarde.
Misère. Puis en plus, qu'il va être accusé, puis qu'il va être accusé. La personne est traumatisée. Elle l'a dit, elle est sortie, elle était traumatisée. Juste poser ce geste-là, à moins que tu sois psychopathe, sociopathe, et encore... C'est sûr que ça te laisse des séquelles, là. Mentales, après ça, des séquelles judiciaires, après ça, des séquelles dans toute ta vie. C'est pour ça que j'ai de la misère à... J'ai vraiment de la misère à procéder au suicide, mais je sais que c'est une hypothèse. Je comprends absolument tout ce que tu dis. Mais je l'entends, je le discarte pas.
Il y a tellement de questions à poser. Je veux dire, c'est quoi la relation entre les deux personnes qui étaient dans ce char-là? C'est quoi les discussions qu'il y a eu entre ces deux personnes-là dans les heures précédant le jeu ou le geste? Il était dans quel état? Je veux dire, moi, j'ai 83 questions à poser avant de tirer des conclusions, mais le résultat reste le même. T'as un gun chargé sa tente, puis tu tires.
Après, je me dis aussi, tout le crime organisé qui est rendu là, deux fois plus violent, déconnecté de l'humain. On pose des gestes avec des mineurs qui, on n'aurait jamais pensé, auraient arrivé dans le temps. Ça se fait dans grande rue à n'importe quelle heure. Je me dis, est-ce qu'on est tellement rendu à se mettre un genre de paravent puis à s'empêcher d'avoir des émotions face à ça? On est-tu rendu déconnecté avec les émissions qui passent?
Ça, là, c'est un débat qu'on a aux 5 ans. À chaque fois qu'il y a une tragédie, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans.
Les
là.
Jeux vidéo.
Non, mais
quand
ça me ramène
tueries,
à ça.
C'est une toune de Megadeth. C'est les un jeu vidéo que tout le monde a joué, mais que personne n'est devenu tueur, là, je veux dire.
Mais tu peux te poser des questions.
Mais les gens malades vont toujours trouver une raison. Puis là, clairement, on n'a pas...
Mais ça
n'a
pas aidé, sûrement.
Je veux pas faire de peine à la sœur, mais on n'a clairement pas devant nous quelqu'un qui avait toute sa tête.
Ben là, pour faire ça, puis l'autre aussi. Sauf
à
que
moins
ça, qu'il ait
été forcé de le faire.
Puis le premier scénario, tu sais, je lisais le texte, puis j'avais pas fini, puis le premier scénario que je m'étais déjà tracé parce qu'on est dans ce contexte-là, Yann, je me disais, c'est une affaire de guerre de motard puis de dette de drogue. T'sais.
Ben, la première théorie, moi, que j'avais, c'est le crime organisé, puis j'ai cherché partout.
Puis la personne qui a le gun sa tempe n'a pas le choix de jouer, entre gros
si
guillemets, à la
roulette russe. Si tu survis, tant mieux pour toi, mais ça sera un avertissement. Il y a plein d'affaires qui me passaient en tête à ce moment-là. Je trouve ça déplorable, puis c'est aussi déplorable, mettons, cette émission-là que je trouve difficile, parce que quand tu as peut-être des gens qui n'ont pas de jugement, on sort de tout ça, on le sait pas, c'est comme de faire une émission extrêmement populaire sur un tueur en série, puis après ça, les gens à l'Halloween se déguisent en ce tueur en série-là. Est-ce qu'on a un peu romancisé le dit jeu? Est-ce qu'on a romancisé certaines scènes?
Il y a une différence majeure entre des gens qui s'amusent, qui ont écouté une série ou un film puis qui lui rendent hommage. Tu sais, quelqu'un qui s'est déguisé dans un party d'adultes en clown de Terrorizer à l'Halloween. Là. C'est un tueur en série, mais c'est un film, c'est de la fiction.
C'est la fiction.
C'est comme quelqu'un qui se déguisait en Jason ou en Freddy. Je veux dire, c'est des gens qui s'amusent puis qui n'ont pas l'intention de commettre un crime. Là, on est complètement ailleurs.
Oui, mais le gars là qui avait eu un documentaire, ben c'est Ted Bundy, c'est pas lui. Non, il y en a un qui donnait à manger à ses voisins là, ses victimes. Moi, j'ai jamais écouté cette série là. Ça avait été refait, mais basé sur une histoire vraie là. Ça a été extrêmement populaire il y a 2 ans. Puis le monde commençait à se déguiser en ce tueur là qui a réellement existé.
Ça, c'est bizarre.
Ça, c'est de mauvais... à chaque fois, ça me fascine.
C'est de mauvais goût, mais si t'es d'un party de 5 personnes, que c'est toutes tes chums, puis que vous êtes toutes des gens qui aimaient l'humour de mauvais goût, faites ce que vous voulez.
Je sais pas encore, là. J'ai le goût d'arriver, moi, Dahmer.
Mais Jeffrey Dahmer, effectivement.
Mettons que tu te déguises en noir, t'as-tu l'intention de devenir premier ministre du Canada après?
J'imagine qu'à cette époque-là, il pensait pas à ça. Ben. Mais tu sais, Squid Game, pour revenir à ça, la réflexion derrière cette série-là, c'est... Ta vie humaine, elle vaut quoi? Oui. Puis c'est la question récurrente dans la première saison, la deuxième saison. Moi, l'écoute de cette série-là, qui est très violente, m'a amené à des discussions super intéressantes avec ma blonde sur la valeur de l'argent puis la fascination de l'argent des gens qui sont prêts à risquer leur vie littéralement pour gagner quelques millions.
Mais quand t'as rien, là, nous, on peut pas le savoir. On n'est pas dans cette situation-là. On n'aura jamais rien, parce qu'on a un filet social des gens autour de nous, on a un travail, on a une santé mentale.
Mais
on
ce
a
gars-là avait tout ça, là. Il y avait une sœur qui l'aimait, entre autres. Là,
mais
t'sais.
Dans certains pays, il y en a qui acceptent des choses épouvantables de vendre des parties de leur corps, de se prostituer, même ici, ça arrive, parce qu'ils n'ont rien. Puis dans la totale déchéance, dans la totale tragédie humaine, il y a peut-être des gens qui accepteraient de participer à un vrai Squid Game.
Mais bref, probablement. On en saura peut-être plus sur cette histoire-là dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais je pense que l'histoire qui nous est racontée n'est pas nécessairement la bonne. Juste pour faire un petit aparté, on revient avec l'histoire de Pascal, là, mon fameux boulevard de l'amour que je vais faire le 14 février prochain. Je me rallie à Julien. Julien qui dit... CV, il l'appelle de même. Moi, j'adore quand vous l'appelez CV.
CV.
CV restera pas longtemps célibataire. Quand le drain de douche va être bouché, ça sera une question de temps.
Ça, c'est un bon auditeur. Il se passe-tu pas longtemps parce que...
Ma blonde m'a déjà dit...
un numéro de téléphone proche.
Ma blonde m'a déjà dit qu'elle avait déjà organisé une date avec un gars qui l'intéressait, soit dit en passant, mais qui concordonnait avec l'arrivée d'ameublement Tanguay pour ses meubles.
Dis pas ça! Parce que tu sais que je juge ces personnes-là, je vais être pas pour juger en nom de ta blonde et j'ai déjà jugé ce genre. Tu me dis de faire une date.
Là, avait un certain aménagement à faire à la maison.
OK.
Puis là, elle avait besoin de bras.
C'est.
Fait que quand la date est venue chercher, elle disait, j'ai plein d'affaires à déplacer, tu peux-tu m'aider?
Tu joins l'utile à l'agréable.
Le gars l'a aidé. L'exploitation.
Puis après ça, je dis, au moins, t'as-tu.
Oui, avez-vous frenché?
T'as-tu fourré avec après? Elle dit, non, il m'intéressait pas.
Premièrement.
Non, mais attention, c'est une scène de vie. Moi, j'achète ça.
Ah oui?
Comment tu peux réaliser si ça va fitter avec quelqu'un ou pas? Monte un meuble.
Ah!
Si t'es capable de monter un meuble puis d'avoir du fun avec une personne avec qui t'entrevois peut-être des choses, t'es capable de passer à travers bien des épreuves.
Première date, sérieux?
Première date, c'est peut-être un peu...
Peut-être un peu intense.
Un peu fort. Moi, j'irais au cinéma, personnellement.
Tu y parles pas.
Ou au resto.
T'en regardes pas, tu y parles pas. J'irais au cinéma.
Ça va, toi, la conseillère matrimoniale, célibataire?
Mais non, mais c'est parce que je veux, Yannick. Mm-hmm. Je comprends. Tu peux planter le clou tant que tu veux. Je suis tellement bien en ce moment dans la vie, là.
Le cinéma, by the way, la conversation, c'est après. Puis quand t'as vu le même film, si t'as plus de conversation après, mettons que t'as trippé en malade sur ce que tu viens de voir, puis t'en parlerais pendant des heures, puis que l'autre personne, moi, j'ai. Oui, ça plaît.
Mais c'est pour les mésadaptés sociaux, là. Pour
non,
vrai,
non,
là,
non,
la,
non,
date,
non.
La première date au cinéma.
La passion, c'est
Denis,
pas pour les mésadaptés sociaux.
Denis, faut être mésadapté social.
Absolument.
Sérieusement,
pas.
Là.
J'en parlais à Martin.
Garde, arrange-toi que tu sois en série le 14 février.
Garde, pardon, là, mais aller au cinéma, pas parler à quelqu'un, parce qu'au moins, j'ai un sujet.
Mais j'en parlais avec Audrey ce matin. T'sais, les premières dates, il y en a de plus en plus qui se font au déjeuner au restaurant.
Au déjeuner.
Mais oui, parce que si ça t'intéresse pas, t'es pas obligé de passer la journée avec.
Il n'y a pas d'alcool vraiment impliqué à part le milieu.
Il n'y a pas d'alcool.
Ça te tente, mais...
C'est des contrats. T'as pas besoin de te casser la tête à savoir comment tu vas t'habiller. C'est un déjeuner. Là, t'arrives pas
un
là.
Un café, je trouvais ça shiny. Poche dans le temps maintenant. J'aime bien ça.
Ouais.
C'est là que je réalise que j'ai pas fait ça souvent des dates. Parce que j'étais tellement gêné. Puis je trouve tellement le contexte obligé.
Ouais.
J'aime mieux les hasards. J'aime mieux les concours de circonstances.
Ouais.
Bref, ça, je trouve ça cool.
Prochain sujet, les amis. Encore un red flag du côté de Saint-Roch. Des commerçants qui commencent à exiger de plus en plus que le secteur où ils sont retrouve l'effervescence d'il y a de ça peut-être 10 ans. Puis on pense avoir des moyens d'y parvenir, mais à visage caché, on dit qu'il y a une problématique au niveau de l'itinérance. Là. Puis l'itinérance zéro, ça n'arrivera jamais. Le maire Marchand avait fait sa campagne électorale là-dessus sur l'itinérance zéro, puis il était obligé d'admettre que c'était un objectif beaucoup trop élevé. Ça ne s'est pas amélioré, au contraire, ça s'est rempiré. On a fermé un magasin de jouets, c'est le jouet Benjo.
Le Benjo, oui.
Parce que les itinérants, ils campaient dans l'entrée, puis ça faisait peur aux femmes et aux enfants. Puis, il y avait des problématiques de vol à l'intérieur du Benjo. Même au Benjo, ils ont dit, non, c'est pas en raison des itinérants, mais on sait très bien que c'est en raison des itinérants, là, puis des gens qui volent à l'intérieur du magasin, bien entendu. Ça va être quoi, la solution, Denis? C'est-tu de faire une rue piétonne? Hey. C'est-tu d'éloigner les itinérants du centre-ville? Ils vont faire quoi?
J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sais pas à quel point tu veux qu'on ouvre la porte, mais j'ai été fasciné par les témoignages qui sont dans les médias de de ce matin, entre autres, le propriétaire du Noctem, une microbrasserie qui, lui, a perdu sa clientèle de fin de soirée puis de nuit. Pourquoi? Parce que les gens qui allaient là, c'est des gens qui vont pas chercher le party, c'est des gens qui sortent du Capitole, d'un spectacle qu'ils ont aimé, puis qui ont le goût d'aller en jaser en prenant une bonne bière.
Très fun pour des dates aussi, parce que l'ambiance est relaxe, c'est pas le party.
Mais ces gens-là descendent plus dans Saint-Roch parce qu'ils ont peur, parce que ça brasse trop le soir, puis c'est plein d'angles morts, de problématiques qui font en sorte que tous les commerçants reconnaissent le problème. Puis l'étape numéro un pour trouver des solutions à un problème, c'est le reconnaître. Le conseiller municipal de ce coin-là, il dit qu'il n'y en a pas de problème. Ça, c'est le problème à régler numéro un pour les commerçants. Allez parler à votre conseiller municipal. Puis ce serait peut-être le temps qu'il se réveille puis qu'il reconnaisse que Saint-Roch n'a pas un problème, a un gros problème. Parce que la stratégie de la Ville de Québec, présentement, ça semble d'être « Hey, là, faudrait arrêter de dire qu'il y a des problèmes dans Saint-Roch, dans les médias, hein, parce que ça fait de la publicité négative. » Attention, là, la poule arrive avant l'œuf, les amis, là. On parle négativement de Saint-Roch parce qu'on vit dans cette ville-là, parce qu'on la marche à toutes les semaines et qu'on voit les changements. Les commerçants font la même chose. On dit que c'est depuis la pandémie qu'on laisse aller Saint-Roch. Laissons la pandémie de côté. Le maire Lallier avait beaucoup de défauts. Saint-Roch y croyait. Le maire Labeaume avait beaucoup de défauts. Saint-Roch y croyait. Le maire Marchand...
Il n'y a pas de défaut.
Il croit... Il n'y a pas de défaut, mais il croit-tu, lui, à Saint-Roch?
Mais c'est une bonne question. Honnêtement, moi, j'ai pensé aller vivre dans Saint-Roch à un moment donné. Je trouvais que ce qu'il avait acheté était le fun. Tu peux faire des beaux flips. Il y avait des beaux endroits. C'était moins cher. Puis ça commençait à être un peu funky, le fun. Les commerces qui étaient là. Mais là, on parle d'il y a 2-3 ans, mettons.
Ouais, ben, l'immeuble où, là, je ne vous dirai pas c'est où, mais où le maire Marchand habite, puis l'ex-maire Labeaume habite, c'est un immeuble que moi, j'ai regardé, puis je le trouvais tellement bien
belle
placé que je me disais, il y a même du stationnement intérieur, je me disais, ce spot-là, à tout jamais, je voudrais vivre là jusqu'à la fin
de mes jours. Mais dans les trois dernières années, je comprends pas qu'on est passé d'un endroit, un quartier qui va être un fleuron pour Québec, qui va être vraiment le fun et dynamisant pour les jeunes puis tout ça, à ce qu'on a aujourd'hui.
C'est une rencontre d'urgence que ça prend avec les commerçants de Saint-Roch. Peut-être amener les résidents aussi, mais il faut commencer à prendre ces problèmes-là au sérieux. Puis s'il y a des solutions, bien, il faut peut-être commencer à les écouter. Mais ça prend un plan de sauvetage. Tu peux pas juste essayer de contenir la problématique. Les gens qui ont fait que Saint-Roch est passé de mailles fermées, très peu invitant, à un secteur de vie où il y avait un buzz, le fun, puis qu'on a recommencé à fréquenter le bas de la ville, au point de dépouiller le haut de la ville quand le festival d'été n'y est pas. Il y a eu du travail, de fait, là-dessus. Beaucoup de travail. C'était une priorité, je pense, pour les administrations municipales précédentes. Est-ce que c'est encore une priorité? Moi, quand le gars qui représente le secteur veut même pas reconnaître qu'il y a un problème grave et urgent dans Saint-Roch présentement, ben c'est l'étape numéro un, c'est le problème numéro un à régler. Le représentant du coin, faut qu'il reconnaisse qu'il y a un problème, puis il faut qu'il fasse partie de la solution ou des solutions. T'sais.
Nathalie Deschênes, c'est la propriétaire de Champagne Chocolatier.
Oui,
est extrêmement positive malgré le fait que son chiffre d'affaires a diminué de moitié et ses taxes municipales augmentent année après année.
Elle lâche pas.
Elle veut vraiment pas baisser les bras. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a adopté le quartier, qu'elle a appris à connaître plein de belles choses, plein de belles personnes, puis elle veut rester là. Mais le problème, c'est que ça faut que ça redevienne une belle rue.
Ben oui, puis elle voit ses voisins partir, puis elle trouve ça dur aussi. Puis probablement que Benjo, ça lui a donné un tabarnouche de coups, parce que c'était un peu les deux porte-étendards de la rue, là. Tu sais, Champagne puis Benjo, les premiers commerces qui se sont dit, nous autres, la mixité, on y croit, puis on va participer à ça.
Même quand c'était pas encore funky.
Exact.
C'est encore difficile.
Tu sais, avant que les entreprises de jeux vidéo s'installent toutes là avec les subventions, puis ainsi de suite, avant que le soleil déménage dans ce coin-là, il y a comme eu un paquet de mouvements. Ça a été les pionniers, puis bravo à eux autres, puis bravo à la dame de Champagne qui lâche pas, puis qui pense que ça va revenir. Elle, c'est sûr qu'elle fait partie de la solution. Elle est là depuis assez longtemps. C'est sûr qu'elle a des choses concrètes à proposer.
Puis elle veut rester.
Ben oui, elle veut rester.
Est-ce que, puis je pose la question aux auditeurs en même temps, au 418-971-1021, est-ce que le fait qu'il y ait des bureaux inoccupés, puis qu'on puisse peut-être les transformer en logements, est-ce que ça pourrait revitaliser le quartier?
Écoute, je reviens encore au propriétaire du Noctem qui dit « Notre clientèle de 5 à 7, on l'a toute perdue parce que les gens qui étaient dans les bureaux sont plus d'un bureau. Donc, faut ramener la vie dans Saint-Roch pour que la vie recommence.
Il y a 2 ans, j'étais tout le temps dans Saint-Roch, tellement qu'à un moment donné, quand il est arrivé avec le tramway puis qu'il avait dit qu'on allait faire des one-way, c'était impossible. Je me dis, arrêtez, vous allez le tuer, Saint-Roch. Vous allez tuer Saint-Roch pour cette raison-là. À la base, moi, il y a 2 ans, je disais que ça allait être mort. Pas parce qu'on est tout ce qu'on explore en ce moment, parce qu'on allait faire des one-way puis il n'y avait plus de stationnement, puis etc. Mais beaucoup par texto écrivent en ce moment. Il faudrait quand même nommer que le déménagement de l'Aube-Rivière n'a pas aidé à la situation. Non. Puis là, si on creuse plus loin, tu sais, Éric Boulay, entre autres, ça fait longtemps qu'il voulait déménager l'Aube-Rivière. Moi, je l'avais visité il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Puis il disait, puis les chambres, c'est épouvantable, gang. Là. À un moment donné, je comprends, t'es en situation d'itinérance, là, mais c'est en décrépitude. Si je peux vous imaginer ça, imaginez un corridor qui est gros comme 2 pascals, là, de large, OK? Puis les murs peuvent s'écrouler, on entend tout à travers, mais les portes aussi, tout est scrap, c'est en plein d'humidité, de semi-moisissure, puis la ville n'a pas aidé à rénover ça ou à enlever des contraintes.
Là, t'amènes un bon point, parce que avant d'échapper Saint-Roch, on a échappé l'Aube-Rivière, qui était dans un secteur de vie idéal. Puis ça, ça court pas les rues.
Où ils étaient habitués, ces gens-là, à y aller, conso, pas conso, ils ont retrouvé leur chemin. C'est peut-être stupide à dire, mais c'est important.
Puis je vais plus loin que ça. Tu avais comme une zone tampon autour de l'Aube-Rivière qui fait que tu es en plein cœur de la ville, mais tes cas les plus lourds vont être là, vont être autour, mais ils dérangeront pas. Puis
on sait où les trouver à ce moment-là parce qu'ils sont là depuis des années. Fait que les intervenants sur le terrain, on peut aller chercher à plein de raccoins partout dans ces rocs où on les trouve plus, puis on est peut-être plus capable de les encadrer de la même manière.
Puis ça fait mal à dire, puis ça fait mal à entendre, mais oui, ça peut finir par déranger des commerces quand ils sont pas aux bons endroits. Cet endroit-là, stratégiquement, qu'on a laissé dépérir trop longtemps pour le rescaper ou le réchapper, c'était l'endroit idéal. Puis les problèmes de Saint-Roch, t'as raison, commencent au déménagement de l'Aube-Rivière.
Puis ça, est-ce que c'est une question aussi qu'on devrait poser à la ville?
La distance, c'est même pas 500 mètres, Denis.
Mais c'est comme structurel. C'est structurel, c'est sociétal.
L'église a toujours été là depuis ma tendre enfance. Ouais. Moi, les itinérants se tenaient dans ce secteur-là. Mm-hmm. Tu sais, ça a pas vraiment changé. Moi, j'étais sur la rue du Roi, la rue de la Reine. Là. C'est là où j'ai grandi. Puis après ça, on a voyagé un peu partout. Mais ça a toujours été avec des itinérants dans le secteur de Saint-Vallier, secteur de Saint-Joseph, Notre-Dame-des-Anges, c'était de la prostitution.
Oui. Oh, palais, le lapsus.
Pas la première fois que t'as sort. Hein?
Ça se tenait dans le Maï Saint-Roch. Les itinérants se mettaient dans le Maï Saint-Roch parce qu'il y avait de la chaleur et tout ça. Mm-hmm. Puis après ça, à l'autre bout du Maï, là, t'avais l'endroit où on pouvait aller...
Beaucoup, ça y a...
L'endroit où on pouvait aller manger à l'Aube-Rivière.
C'était pour leur passe-temps de jour. C'était pas l'endroit où ils restaient.
500 mètres plus loin, ils ont fait le nouvel Aube-Rivière. Ouais. Puis on dit que ça a amené encore plus de problèmes. Je pense que c'est le fait qu'il y a plus d'itinérants qu'il y avait.
Ça n'a pas aidé. C'est
une tempête parfaite. Ouais. Parce que le nouvel emplacement, les commerçants vont te le dire, ils n'étaient pas satisfaits puis ils craignaient justement. Ils disent, là, nous autres, le feeling qu'on a, c'est que le nombre d'itinérants problématiques, il n'est pas en réduction, il est en augmentation. Puis en nous plaçant ça, parce que oui, je pense, Marceau, que 500 mètres, ça peut faire un monde de différence dans un petit secteur comme celui de Saint-Roch. Malheureusement, c'est une tempête parfaite. Changement d'administration municipale qui n'a peut-être pas les mêmes priorités. Pandémie qui fait en sorte que beaucoup de monde se ramasse avec les fils mêlés entre les deux oreilles. Beaucoup d'itinérance, beaucoup de problématiques de santé mentale. Tu prends le quartier général de l'Aube-Rivière, tu le places ailleurs, tu changes un peu le mix ou la mixité de ce secteur-là, tu crées de l'insatisfaction en plus d'une crainte qui était là. C'est une tempête parfaite qui fait que, oui, Saint-Roch a un problème. Commençons par le reconnaître au niveau de l'administration municipale, puis parlez-vous, la gang de Saint-Roch, pour trouver les solutions. Vous les avez. Les gens qui vivent là les ont, les solutions, je suis convaincu.
La réflexion est quand même à avoir. Là. Quand il y a eu des problématiques l'Aube-Rivière, tu sais, tout ce qui est bâtiment patrimonial, structurel là, depuis longtemps et tout, la ville, là, je me rappelle, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est là-dedans, c'est une chambre à virer fou de juste changer une fenêtre. Fait qu'est-ce qu'on a pris en conséquence et en question des genres d'analyse du fait que si tu décimes, tu mets des racines même à 500 mètres, cette clientèle-là, ça va causer plus de problèmes que d'enlever la politique 2.4.6.7 pour rénover un bâtiment de cette ampleur-là puis de le laisser dans l'écosystème qui est connu depuis des années où on a fait « Non! » nous autres, on est des grands penseurs de patrimoine, puis c'est impossible. Est-ce qu'on a vraiment donné à Éric Boulay, par exemple, toutes les mesures pour bien s'assurer de servir ses clients?
J'ai un peu de dictature dans mon sang.
On le sait, oui.
Peut-être que moi aussi, je suis le fils indigne de Fidel Castro.
Tu pourrais peut-être donner un peu de sang.
Dans ma dictature.
Hey, Castro, il en a généré des douteux, hein? Au total tout.
J'aimais mieux ton lapsus des jambes que tu sais.
Mais dans ma dictature, je me dis, pourquoi en tant que société, on laisse des gens dépérir dans la rue, que ce soit par l'alcool, que ce soit par la toxicomanie, que ce soit par la maladie mentale. Il y a un bel édifice que je vois d'ici, là. Ça s'appelle Robert Giffard. Ouais. Ça fait trois fois que tu te fais prendre, tu es en itinérance, tu es intoxiqué, tu crées des problèmes dans la ville, tu commets des crimes, tu t'en vas à Robert Giffard, puis on va te donner les spécialistes que tu as besoin. Si tu as besoin de retourner à l'école, on va te donner les moyens de le faire. Tu as besoin de réintégrer le marché du travail, on va te donner les besoins de le faire. Puis quand tu vas être correct, ben, tu vas pouvoir prendre ton petit bagage, ton petit bonhomme de chemin, puis après ça, réintégrer la société.
Mais toi,
tu
es un défendeur des droits humains, de la liberté de choix et tout ça. Où est-ce que, puis c'est une question que j'ai envie de t'entendre, là. Puis Denis, probablement, tu as ton opinion aussi. Et où ta ligne entre obligé, entre parenthèses, quelqu'un à se reprendre en main et d'aller dans une institution pour l'aider?
À partir du moment où il est un danger pour lui-même. Le quartier zombie à Vancouver, ou encore à San Francisco, là, ça n'existerait pas dans ma dictature douce. Là. Ça n'existerait pas.
Toi, ça, mettons, la limite est là.
Quand tu es un danger pour toi-même, tu dois être aidé. La société doit t'aider.
Et c'est une obligation.
Ça peut même aller à l'encontre de ton désir.
Ton désir.
Non, ça fait trois fois qu'on te prend dans la rue. Ça fait trois fois que tu es enceinte, là, que tu accouches dans la rue, que tu te crées des problèmes, que tu es un danger pour toi, pour les autres. Ben, on va t'aider.
Puis avec ce qu'on a appris au niveau de la santé mentale juste dans la dernière décennie, là, au niveau des médicamentations, au niveau des traitements, au niveau de l'approche, tu sais, un nouveau Robert Giffard ne deviendrait pas l'asile d'Arkham de Gotham City, là, tu sais. On a passé cette époque-là, là, où on laissait le monde... Non, mais c'est parce que c'est arrivé pour vrai, là. On laissait le monde se chier dessus, puis on mettait des serviettes dans le bas de la porte pour pas que ça sente dans
c'est
le corridor.
C'est un Squid Game différent.
Ouais, tu sais, je pense qu'on a assez évolué comme société. Si on repartait un projet comme celui-là, je pense qu'on partirait sur de bien meilleures bases.
Denis Gravel, c'est toujours un plaisir, puis j'aimerais que tu réfléchisses à mon plan pour février 2025, le 14 précisément, c'est là, hein, Saint-Valentin, parce qu'on va se transformer en Cupidon.
Écoute, je sais ce que tu vas me demander, mais je suis heureux avec ma blonde.
Tu veux pas aller au cinéma avec moi pour m'en sortir?
Non, 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 je te l'ai déjà dit.
Une seule fois.
Je pense que t'es la pire date de Boulevard 102.
J'avais tellement...
Ça, ben, elle l'a pris mal en passant.
Je sais qu'elle l'a mal pris.
J'étais, qu'est-ce que je t'ai fait, toi, ta barouette?
Qui serait la pire date dans l'équipe d'animation? Puis moi et toi, on a dit Pascal, c'était le vraiment primaire.
Puis après ça, quand j'ai compris que c'est parce que je serais pas intéressé, vous étiez mal de ça.
Non, c'est parce que t'es obligé de leur parler, tu sais. C'est... tu veux-tu vraiment parler autant?
Moi, je suis allé par élimination. Si je dis que c'est Audrey, elle va être fâchée. Si je dis que j'ai Véro, j'en ai pour deux ans à avoir une face de bœuf.
Fait que je vais dire à Pascal qui va s'insurger une fois de temps en temps et va faire une joke avec.
Pascal, on travaille peu ensemble, fait que ça va être tôt.
Fait que tu connais son processus? Moi, c'est parce que je le pensais réellement.
Ah, je suis pas surprise.
Salut, Pascal.
Pas surprise.
Merci, Denis. Ciao.
Salut. 102.